Un jour, j'aperçois dans les chats, tu sais, d'entreprise, là, mon maître de stage qui paraît à son collègue, putain, Etienne, faut lui mettre une pile dans le cul, parce que là, il en rend pas une et tout. Enfin, je suis une bonne ambiance.
Dans cet épisode, vous allez avoir la toute première déclaration d'amour d'Etienne, qui avait voulu, à l'époque, la filmer. Et ensuite, plusieurs années plus tard, son stage dans une boîte de réal. Voilà, c'est pourquoi on l'a appelé l'épisode de Réalousateur. Merci d'écouter Étienne, toujours aussi drôle, au micro de Dédramalouse.
Première louse, du coup, mon premier râteau, qui est assez particulier et que je trouve assez marrant. J'étais fou amoureux d'une meuf, c'était en quatrième. Fou amoureux de cette meuf. Là, on se connaissait un peu, mais vite fait. Et elle habitait dans la même rue qu'un de mes meilleurs potes. Et tous les lundis soirs, moi, j'allais chez mon pote, on traînait chez lui. Et quand je rentrais, eh ben, je la croisais toujours. Parce qu'elle, elle rentrait à cette heure-là, quoi, chez elle. Et un jour, je m'étais dit, putain, je vais lui demander de sortir avec moi quand on se croise. Bon, déjà, c'est un bail quand même hyper chelou. De dire, yeah, c'est tellement la bonne idée.
Salut, sortir avec moi. Bah, putain, ça se faisait comme ça.
Bah, ça se faisait un peu comme ça. C'était facile oui. À l'époque, putain.
J'avais pas besoin d'Instagram.
Exactement. Et donc, voilà. Et donc, j'avais un peu prévu le coup. Je m'étais dit, bah voilà, elle va arriver. Donc, il faut que je sorte bien à 18h, je sais pas quoi, etc.
Tu l'as suivi comme un psychopathe.
Je la suivais pas, non, mais je savais qu'elle arrivait à ce moment-là, tu vois. Mais sauf que moi, j'ai toujours, enfin, à l'époque, en tout cas, je rêvais d'être réalisateur. Et j'avais un caméscope et je m'étais dit putain les gars, on a peut-être un truc à faire là, on va filmer ça quoi, on va le filmer, il y a moyen que ça soit génial. Donc en fait on avait
avant-gardiste
voilà. Après j'aurais pu en faire un petit reel sur Instagram peut-être que j'aurais eu des vues parce que bon. Et en gros du coup on avait géré le truc avec les potes et tout, j'avais le petit caméscope et tout.
Comment ça avec les potes, t'avais informé tout le monde que t'avais...
Bah, en fait moi je traînais avec mes potes chez mon pote là, et donc on était 2-3 quoi. J'ai dit bon bah les gars voilà, j'aimerais bien faire ça, je vais demander si machin veut sortir avec moi et tout.
C'était à quel âge, pardon?
J'étais en quatrième.
Ok. J'avais 23 ans.
En quatrième. Et donc, j'avais pris mon caméscope. À l'époque, je filmais tout et n'importe quoi. Je filmais des... Bon, c'était n'importe quoi. Mais là, je m'étais dit, bah attends, c'est un peu marrant. Et puis, en vrai, je pense vraiment que... Je n'osais pas me le dire, mais en fait, c'était une manière pour moi de dédramatiser le délire.
Oui.
Je
me disais,
pire, je me prends un râteau, mais au moins, j'ai un bête de souvenir.
Moi, c'est filmé, j'envoie vidéo gag.
Ouais, grave. Mais donc, du coup, juste avant, je disais, bon, les gars, faut qu'on aille checker. Et donc, on avait fait des repérages et tout. Je dis, faut que je lui demande là. Donc, c'était dans une rue, il y avait une sorte de garage. Je lui dis, bah, faut que je lui demande devant le garage. Et vous, si vous allez vous cacher là, derrière la porte. Enfin, il y avait une sorte d'entrée d'une résidence et tout. Il se cachait comme ça avec la caméra et tout. Donc, vraiment, tout était nickel. On avait juste pas de micro, quoi. Donc, bon, je pense. Et donc on est prêt et on est là donc sur cette petite résidence qui donne sur cette rue et en fait de la résidence on peut voir un peu plus loin la fille arriver. Donc c'est bon, elle arrive et tout. Donc moi je cours me remettre comme si je sortais de chez mon pote et vraiment je fais genre je sors de chez mon pote et tout et je marche en mode
stressé ou excité?
En vrai j'étais archi stressé, je pense. J'étais archi stressé, mais je pense que dans ma tête je me disais vraiment vas-y pour le cinéma. En vrai, je pense que j'y allais un peu défaitiste, hein, déjà. Hein, je savais que ça allait pas être glorieux.
Pour le
7e art, voilà. Le dogme 95. Et bref, et j'avance et je me place parfaitement. Et en fait, c'est génial parce que j'arrive, je fais « Ah, salut, ça va ? Ouais, nickel et tout. » Et elle commence à repartir. Et là, je fais un « Eh, au fait !» Donc déjà, je trouve vraiment le...
« Eh, au fait !»
Au fait, j'avais un truc à te dire. Donc, la pire accroche du monde. Et je lui dis « Ouais, est-ce que tu voudrais sortir avec moi ?» Et là, il y a un petit temps, et puis elle est adorable. Elle me fait « Bah, tu veux pas qu'on reste amis ?» Et je lui fais « Bah, on n'est pas amis, en fait. »
Pourquoi t'as dit ça?
Bah parce qu'on n'était pas vraiment amis, donc j'étais là, bah attends, pour moi c'était un peu c'est la phrase pétée, tu vois, ouais. Tu étais en train de me dire phrase pétée, genre, bah je vais te remettre face à la réalité.
T'avais de la répartie.
Ouais. Je vais te mettre face à la réalité, on n'est pas potes, tu vois, donc et là elle me dit hyper sympa, bah si tu veux, on peut essayer de le devenir. Et moi j'ai fait ok ouais super
génial
et bah on
check
est... allez check et vas-y et on s'appelle frérot et on est parti chacun de notre côté et là j'étais là un peu Abasourdi, mais en même temps abasourdi, mais en vrai.
Ça y est, je l'ai dit, j'ai fait.
Ouais,
et
puis
j'y attendais.
Bah, j'étais pas un king, hein. Je l'ai jamais vraiment été d'ailleurs, mais, donc là, enfin, voilà, je savais que voilà, ça allait pas le faire en vrai. Et là, je commence à entendre derrière moi des pas. Donc mes potes qui arrivent en courant, donc je me dis putain, si elle se retourne, c'est sûr, elle les gaule. Et heureusement, elle s'est pas retournée. Là, ça aurait été maxi lose et ça aurait été super. Et là, on arrête, donc je tourne la rue. Je dis putain, les gars, machin et tout, faites attention, putain, elle est encore dans la rue et tout. Ouais, mec, mes mecs, putain. Et plus de batterie. Et donc voilà, je me suis pris une sorte de double râteau, quoi, le râteau amoureux et le râteau professionnel.
Putain, moi j'étais déjà en train de me dire retrouver sur les réseaux les images.
Mais bien sûr, mais j'avais des surboules. Et en fait, peut-être que c'était mieux comme ça. Et en fait, je crois que j'étais presque plus déçu finalement de pas avoir
de
la
pas
vidéo,
avoir la vidéo.
Que du râteau, quoi. Mais bon, c'était aussi un moyen de faire, mais bon, c'était vraiment, mais voilà, donc double déception.
Mais alors, ça aurait pu être un banger. Boîte, maintenant, c'est dans des Dramalouses, donc il y aura eu quand même son petit succès.
Parce que t'imagines quand même si j'avais filmé et que la meuf avait dit oui, on se serait embrassé, il y aurait eu de la musique qui serait arrivée et tout. Là, ça aurait été un banger, tu vois.
Elle s'appelle comment? Ou elle s'appelait? Oui, parce que je l'ai tuée après.
Non, bah, elle s'appelait Lucille. Meuf très sympa d'ailleurs. Puis après, on s'entendait plutôt bien. On se connaissait depuis longtemps.
Et vous êtes devenu
pote
ou pas?
Semi-pote. Après, j'ai écrit un film. J'ai écrit Matrix la parodie. 50 pages de parodie de Matrix écrit par un mec en quatrième. Je peux te dire que ça envoie sévère. Évidemment, je l'avais mis dans un des rôles. Et j'ai retrouvé quelques rushs là récemment et c'est bien de la merde.
Ah, donc elle a joué après dans ton petit truc.
C'est ça, dans un petit film qu'on avait fait. Et en fait, on l'a jamais terminé. On a fait 4 séquences. Dont un pote que j'ai mis en blackface quand même pour faire Morpheus. Bon, à l'époque, c'était pas... c'était normal.
C'était classique.
Et voilà, et c'est ça
parce
qui m'a donné envie.
Parce que là où tu as grandi, il n'y avait pas de noirs.
Pas beaucoup. Dans mon lycée public, hein, mais il devait y avoir 2 noirs.
D'accord.
Donc ouais, c'était pas... mais bon, voilà
pas
quoi.
Pas un énorme casting.
Pas un énorme casting, ouais. Et donc voilà, et puis c'est peut-être ça aussi qui m'a donné envie de faire du cinéma. Et d'ailleurs, depuis, je ne fais pas de cinéma. Voilà. Non, oh, merde.
J'attendais cette chute.
Voilà pour...
un peu la réal. Les caméras sont devenues beaucoup trop chères.
Ouais, exactement. Non, trop compliqué, il y a trop de fils à brancher et tout. Ah, parce que moi, j'ai fait une école de cinéma quand même après. Mes parents ont payé une école de cinéma que j'ai fait pendant 3 ans. Mais j'y suis allé à 18 ans, ouais, j'étais méga trop jeune, enfin vraiment trop jeune. Et ça, c'est pas que ça m'a pas plu, ça m'a plu, mais en fait les gens étaient tous plus âgés que moi. Et en vrai, à cet âge-là, je trouve que.
T'es pas rentré dedans.
Ouais, il y avait trop un gap avec les autres qui étaient plus âgés et tout, et qui avaient plus de maturité. Moi, je sortais du lycée, en plus, bah ouais, mon petit lycée bourgeois à Angers, petite ville, etc. Tout le monde se connaît, j'arrive à Paris, et je suis là, waouh. Au bout de 2 semaines, je me fais racketter dans le métro à 22h, on me pique mon iPod, là, à l'époque, le iPod et tout. Enfin bon, enfin. Donc j'étais quand même, enfin, j'étais. La ville m'a vraiment bouffé, quoi. Et je me suis retrouvé dans cette école, et j'étais là, putain, et tout. Je parlais, et j'étais pas du tout le même que j'étais. Moi, à Angers, j'étais un peu une restat. J'ai fait question pour un champion et tout, donc c'était un peu... Bon, voilà quoi, tu vois, un peu la classe quand même. c'est moi qui ai créé avec d'autres, mais on avait créé le bal de promo dans mon lycée, donc enfin voilà,
c'est
genre,
pas vrai.
Étienne Bianco, premier sur les charts, quoi, vraiment. Et j'arrive à Paris, je suis une sous-merde, vraiment, je suis la sous-merde, j'habite dans le 15e arrondissement, à Convention, c'est l'enfer. Donc ouais, ça a été un peu difficile les premières années, très très difficile.
Et après, t'as fait une école de comédien dans la foulée.
Et après, ouais, après j'ai fait, ah bah ça c'est de la loose aussi en bar, parce qu'après j'ai fait un stage en prod, parce que je m'étais dit putain, je voulais faire de la mettre metteur en scène, mais je me suis dit à un moment, ah, je suis trop au niveau de la thune, je vais faire de la prod. Et je me suis retrouvé mon stage de fin d'études dans une petite boîte de prod super, tournez s'il vous plaît. Et là j'ai fait que des conneries. Mais j'ai fait que des conneries là-bas. Mais qu'avait jamais. À un moment ils m'ont dit ouais. En fait ils me demandent. J'avais que des tâches de merde. Par exemple le bananier. Ça c'est Étienne. Est-ce que tu pourrais donner de l'eau au bananier? Ils avaient un bananier dans le truc. Et donc moi je suis là de l'eau. Puis j'ouvre un placard d'un de mes collègues et je vois une bouteille en plastique. Je me dis oh. Je prends, tac, 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 je mets toute la bouteille.
Ah, au lieu de prendre l'eau du robinet, tu prends de l'eau minérale, tu t'emmerdes pas.
C'était même pas de l'eau minérale, c'était du vinaigre blanc.
Oh, hein, putain,
le cactus, le bananier, il a pas tenu. Hein, vraiment, en deux jours, il était mort. Donc,
putain,
déjà, moi, ça, c'est.
Donner la flotte aux plantes, ils t'ont dit, t'en es pas capable.
Après, ils m'ont dit, Étienne, faudrait que tu rachètes un bureau comme ceux qu'il y a dans la rédac. Parce que pour les journalistes, là, on faisait pas mal de reportages. Et ils m'avaient donné les références. Donc, je vais sur, je sais plus ce que c'était et tout, Ikea, je sais pas quoi, et je les achète. J'en achète deux bureaux. J'avais pris la taille trop grosse. C'était la taille au-dessus, quoi. Et donc, ils disaient, putain, mais Étienne, c'est pas du tout la même taille et tout, ça rentre à peine dans la rédac. Ah, putain, je me suis engouré. Enfin, j'ai fait que des conneries comme ça. je pétais les ampoules, tout. Enfin, je pétais tout. Et le mieux, ils m'ont demandé, c'est pas vraiment de ma faute, mais tout s'est remis sur moi. Ils m'ont dit, ouais, il faudrait que tu gères, il faudrait que tu mettes la fibre. Alors, tu gères un peu le truc, t'appelles Orange, tu mets, faut installer la fibre.
Ils t'ont nommé homme à tout faire, alors que tu sais faire probablement plein de trucs, mais pas les petits
mais
trucs de débrouille.
Mais c'est exactement, ils sont vraiment gourés sur toute la ligne, les mecs. Et en gros, je fais ok, donc j'appelle Orange et tout. Puis déjà, je vois, parce qu'en vrai, j'ai pas tant fait mal que ça le truc. C'est juste que, bah évidemment, il fallait un bouc émissaire. Et par exemple, donc je leur dis, mais attendez, vous avez pris un contrat particulier, mais vous êtes une boîte, pourquoi vous prenez pas le contrat pro? Ils me disent, ouais, non, mais le contrat pro, c'est trop cher et tout. Je fais, bon, ok et tout. Donc j'appelle Orange, il y a un mec qui arrive, etc. Il fait tout le truc de la fibre. Donc pour moi, tout est nickel. Et en fait, en mettant sa fibre, il fait sauter tout le standard téléphonique. Pendant deux semaines, il n'y avait plus de standard. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient plus appeler personne. Et évidemment, tout m'est retourné sur la gueule. Donc, il me dit, Étienne, putain, faut que tu appelles Orange et tout. Donc, j'appelais Orange. J'en disais, oui, écoutez, on est une boîte. Puis, il disait, mais je comprends pas. Vous avez un contrat particulier. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une mésentente sur un quiproquo. Et les gens me regardaient vraiment. Ils pétaient des câbles. Et tout le monde s'était dit que c'était de ma faute. Alors qu'en vrai, bah, c'est pas moi qui vais mettre les boutons, quoi. C'est le mec de. Et quand je me suis barré de cette boîte, j'étais un peu sur liste noire. Hein. J'avais d'ailleurs aperçu un moment, hein, tu sais, les chats.
Ton patège, c'est toi qui es pas.
Non, je me suis barré. Mais c'est vrai que j'avais. Oui, parce qu'à l'époque, j'étais avec une meuf. Et je suis resté un mois avec elle, mais du coup, on se couchait méga tard. Donc, j'arrivais, j'avais dormi 4 heures et tout. Et puis, je m'endormais. Je m'endormais dans l'open space. J'étais là, comme ça, je dormais, j'en ai rien à foutre. Donc, eux, ils hallucinaient, quoi, et tout. En plus, à l'époque, j'étais rédacteur d'un webzine qu'on a créé avec des potes. Et comme j'avais tellement pas de taf, bah, moi, je faisais mes articles et tout. Donc, ils hallucinaient. Il y a un mec qui bossait sur d'autres choses que leur truc à eux et tout. Donc, bref, c'était pas très apprécié. Puis, c'était de l'open space, quoi. Et puis, un jour, j'aperçois dans les chats, tu sais, d'entreprise, là, mon maître de stage qui paraît à son collègue, putain, Étienne, faut lui mettre une pile dans le cul parce que là il en rend pas une et tout. Enfin, je suis bonne ambiance. Et
comment t'as fait pour voir ce qu'ils écrivaient sur toi? T'es allé sur son ordi?
Parce que en fait, un jour il était pas là, il me dit, va sur mon ordi, il faut que tu checkes un truc. Et en fait, son ordi était allumé depuis la veille, tu vois. Et donc je vois, puis je vois ça. Il me dit, mais t'es con, mec. Enfin, alors c'était un message subliminal.
Ouais, il n'osait pas te le dire.
Ah putain. Et finalement, en partant, quand je me suis barré, j'en avais gros sur la patate en vrai. Et je leur ai envoyé un mail en leur disant un peu, bon, merci pour ces 6 mois et tout. Malgré, et là, j'ai balancé toutes les tâches de merde qu'ils m'ont données et tout. Ouais, bon, c'est vrai que j'ai fait ça. Bon, c'est vrai que j'aurais préféré peut-être faire ci, faire ça. Mais je l'ai fait de manière un peu aigre-douce, tu vois, un peu marrante, tu vois, en mettant un peu d'ironie. Et là, moi qui étais la grosse merde de la boîte, ils m'ont tous envoyé un mail en disant, putain, Étienne, mais putain, mais c'est
excellent
ton mail, putain, ça nous, ah, on est vraiment désolé, putain, si on avait su, on t'aurait donné d'autres tâches dans l'écriture, des trucs machin et tout, c'est vrai qu'on s'est pas intéressé à toi.
T'as pas regretté de pas avoir fait des points avec eux pour.
J'ai archi regretté parce que le journalisme m'aurait trop fait kiffer, quoi. Et j'aurais pu bosser dans le journalisme, faire des reportages avec eux, parce qu'à la et en fait mon maître de stage, j'ai gardé un petit peu contact après pour un petit temps, parce que je m'entendais très bien avec lui malgré le coup de la pile dans le cul. et il m'avait dit, ouais, ben en vrai on en a parlé et tout, et ils se sont dit qu'ils regrettaient vachement, qu'ils t'auraient donné des jobs plus intéressants, plus dans le journalisme et moins dans la régie, parce que moi je me faisais chier, quoi, à faire des feuilles de route et tout machin. Et donc ça, je l'ai vachement regretté. Les big boss arrivaient un mois après que je sois arrivé, parce qu'elles n'étaient pas là et tout. Et mon maître de stage me dit, bah voilà, il faut que tu fasses des feuilles de route pour 10 tournages. Et donc il me donne cette mission à faire. Et moi, c'est mes premiers jours, je suis archi chaud, je fais ça la journée, quoi, je fais que ça. Et à la fin, je disais, bon, j'ai failli faire avant, mais. Mais t'avais 2 semaines pour faire ça et tout. Machin. Et après, il savait. Et je pense, lui, il n'était pas rodé aussi. Il était jeune, il avait 1 an de plus que moi, en vrai.
Il savait pas quoi te donner, là.
Il savait pas quoi me donner. Et donc, en fait, pendant 2-3 semaines, bah, j'en branlais pas une. Mais aussi parce que mon maître de stage ne me donnait pas trop. Puis du coup, moi, ça me met dans un mood où, en vrai, j'ai pas envie de bosser, tu vois. Et quand les boss arrivent, elles sont au courant de tout. de tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai pas fait. Et par exemple, j'ai fait 2-3 petites merdes, tu sais, des micro-merdes, vraiment des trucs. Oui, je me suis gouré sur je sais pas, une adresse, je me suis gouré, mais je l'ai rappelé direct. Enfin, ça a pas eu un impact sur le tournage ou quoi. Et ça, tout ça, elles étaient au courant. Je me dis, putain, ça parle quand même très vite pour des petits trucs sans m'en parler avant. Et je trouve ça abusé. En plus, moi, je suis stagiaire, donc évidemment que je fais des erreurs. Limite, dites-les-moi et tout, tu vois. Et
on me ils ne t'en parlaient pas à toi ?
Là, c'était, par exemple, ça, c'était un truc, c'était pas moi, c'était pas mon maître de stage qui devait m'en parler, c'était une journaliste sur un tournage. Et en fait, j'avais fait 2-3 merdes, des petites merdes. Et en plus, j'avais arrangé le coup pendant le truc et tout. Donc, ça, je te dis, ça avait pas eu un énorme impact. Mais en fait, au lieu de me dire, t'as fait de la merde, Étienne, il faudrait plus que tu fasses comme ci, comme ça, comme ça. Elle l'a dit direct à la boss, en fait, qui me l'a dit, oui, j'ai appris que t'avais fait ci, que t'avais fait ça. Puis parfois mon maître de stage, mais j'étais vraiment trop gentil, il faisait des merdes et il me les mettait sur le dos aussi.
Non.
Ouais, ça c'est vraiment, putain, ça c'est pas cool. Mais en fait, moi j'étais tellement gentil et je voyais bien que même lui il était un peu en galère parce que je pense de peut-être être son premier stagiaire, peut-être son deuxième, tu vois. Mais et en fait, je sais pas, je sentais que j'encaisserais mieux que lui, tu vois. Dans ma tête, je me disais, vas-y.
Bah, allez, vas-y.
Ouais, bah, allez, franchement, toi, je suis un stagiaire. En vrai, j'en ai un peu rien à foutre. Je sens bien que c'est, en fait, c'est pas le job de mes rêves, tu vois. J'ai pas envie de me battre pour ça. Donc, vas-y, balance sur moi, en fait. Je suis un paratonnerre, quoi. Cool. Bah, après, ça fait chier sur le coup, en vrai, tu vois. Mais bon. Mais à l'époque, en plus, à l'époque, ouais. Je faisais beaucoup la teuf et tout. Je me couchais méga tard. J'arrivais éclaté. C'était cool. C'était une bonne période en même temps. Marrante, hein, mais... Ouais, non, mais en tout cas, c'est des souvenirs quand même marrants. Et puis, c'est cool. Mais beaucoup de déceptions et de frustrations quand même. Pour le coup, ça, ouais. Beaucoup de frustrations. Parce qu'en vrai, je pense qu'à l'époque, et même maintenant, quand je voyais les journalistes faire leur job et tout, parce que par contre, je suis parti avec eux. Quand on faisait de la régie, c'était trop bien. Je partais avec eux. On faisait une série documentaire sur l'archéologie, les Gaulois.
Ouais.
Et on allait un peu partout. Et je trouvais ça hyper intéressant. On croisait des archéologues qui nous parlaient de ça. Pareil, à un moment, on interviewe un archéologue en studio. Je suis épuisé. Je suis toujours avec cette meuf-là et tout. Je suis épuisé. On est dans le studio. Donc le mec, il est venu pour parler de sa passion et tout. Lui, il habite pas du tout à Paris et tout. Et à un moment, donc, on est en train. Et c'est hyper long, ces interviews-là. Et à un moment, il y a l'air, je me suis dit, attendez, j'entends un truc bizarre et tout. En fait, je dormais juste derrière et je ronflais pendant le tournage, pendant que le mec disait, oui, oui, et tout. Enfin, donc, vraiment, voilà, ça, c'est le genre de truc. Bon, je disais, putain, Étienne, c'est vraiment une grosse merde et tout.
Oh, putain.
Mais à côté, tu vois, ce job m'aurait grave intéressé. À un moment, on m'a mis, il faut que tu récupères des images d'archives sur l'INA, sur un sujet hyper intéressant, enfin, de la France-Afrique, etc., en Guinée équatoriale et tout. On me donne les éléments, on m'a donné de la documentation aussi pour que je prenne les bons trucs, que je connaisse un peu le sujet. Et ça, j'adorais, tu vois. Et j'aurais adoré qu'ils me mettent sur plein de trucs comme ça. Et à côté, ils me faisaient faire du dérochage. C'était l'enfer, tu sais, je devais... c'était vraiment l'enfer. Donc voilà, donc petite frustration et en même temps, voilà, hein, faut avancer dans la vie et... Moi, j'ai pas de morale dans l'histoire. Hein.
Si, la morale, on l'a. Il faut communiquer.
Il faut
en temps réel.
Exactement.
Communiquer, exprimer ses besoins et dire ce qu'on a envie de faire, absolument.
Ah ouais, de ouf.
Mais ça répare l'ego quand même, parce que tu ressors avec
un
truc où
ouf.
Tu sens que les gens te voient comme un boulet. Et au moins, au dernier moment, tout le monde se dit « Ah putain, en fait, un mec
qui déchire. » Franchement, ouais, parce que je pense que j'étais sur liste noire, parce qu'ils me disaient qu'ils avaient une liste noire et tout. Et là, en vrai, ça a grave remonté. Puis j'étais très pote avec mon co-stagiaire. Et donc lui aussi, il m'en parlait pas mal. Il m'a dit « Mais en vrai, Étienne, ouais... en fait, on se souvient bien de toi et tout, mais bon, pas forcément pour les... Enfin, on se souvient pas de toi pour les mauvaises choses. Les gens se disent, c'était un mec cool, parce que c'est vrai que j'ai toujours été sympa, j'étais toujours pro aussi. J'ai jamais voulu être pote avec les gens, etc. Et c'est là où il y a un journaliste qui m'a dit, mais mec, toi, je te sens pas trop à faire de la prod, de la régie et tout. Pourquoi tu... Je sais pas, pourquoi tu fais pas du théâtre? Je te sens vachement à l'aise là-dedans et tout. Et en fait, c'est un peu ce mec-là qui m'a mis un peu là. Alors que je kiffais déjà, évidemment, j'y pensais déjà un petit peu, mais c'est lui qui m'a dit d'extérieur, comme ça, mec, je sais pas, fais du théâtre et tout, quoi. Et en fait, c'est à ce moment-là, du coup, que je suis entré dans un petit conservatoire et après l'école et voilà, quoi.
Excellent. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez surtout pas à aller sur notre Instagram des Dramas Podcast et à nous envoyer un petit résumé d'une loose. Peut-être que vous serez sélectionné pour venir nous raconter ça au micro de Des Dramas. Et n'oubliez pas, si vous travaillez dans une vraie entreprise avec des bureaux, avec des gens, avec des chemises et tout ça, sachez que mon agence s'appelle Aux Éclats. Vous pouvez tout retrouver sur ozecla.net, O-Z-E-C-L-A.net, et nous proposons des formations, des team building, des animations, du spectacle sur mesure et surtout des murder parties immersives avec comédiens. À très vite avec Ozecla.